le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 13, le détour ontarien. Ce soir, j'ai l'impression de revenir dans la peau du personnage de Tiblan Lebrun. Je sais pas si vous vous rappelez les samedis de rire. Là, je vais en faire capoter quelques-uns. Les plus jeunes n'ont aucune idée, sans doute, de ce que je raconte. Il appelait dans les années 80, je me souviens plus jusqu'en quelle année, peut-être début 90, l'émission Samedi de rire, et qui était animée par Yvon Deschamps, le célèbre humoriste du Québec, donc peut-être notre plus grand humoriste d'ailleurs. Et il y avait un personnage qui racontait des histoires à la québécoise avec sa fameuse musique à bouche qui finissait toujours par avaler à la fin. En tout cas, c'était, c'était assez spécial. Mais il y avait toujours une histoire à raconter. Et c'est l'impression que j'ai ce soir, parce que là, c'est comme si on entamait une deuxième saison à l'affaire Blanche Garneau, dans le fond, comme dans une série télé. Parce que là, on se retrouve avec des nouveaux personnages et on est un peu dérouté. Alors, ce sera probablement votre cas, mais sentez-vous pas trop dérouté parce que, vous allez voir, ça va devenir assez mystérieux et même très intéressant. C'est à ce moment-là, en fait, je pense, là, vu que je ne veux pas vous révéler le punch, mais dans l'ensemble de l'histoire, c'est probablement la piste la plus sérieuse qu'on aura jamais eue dans l'affaire Blanche Garneau. Alors, soyez assez attentifs, comme on dit. Alors, l'histoire, cette nouvelle histoire, si on veut, commence à Sudbury, en Ontario. Eh oui, on s'éloigne de plus en plus de façon physique. On aura vu que Joseph Valade à Montréal était tombé sur Henri Duval, un personnage un peu loufoque, mais là, on s'éloigne encore plus, on se retrouve en Ontario. Et c'est l'histoire, dans le fond, d'un avocat, un jeune avocat de 28 ans, qui, lui, cette journée-là, était dans son bureau, et qui s'appelait Jean-Émile Bédard, on va l'appeler Maître Bédard, évidemment. Et à un certain moment de la journée, ben, il s'est levé pour... parce qu'il y avait deux personnes là, qui venaient d'entrer dans son bureau. Donc, par politesse, il se lève pour leur serrer la main. Et l'un d'eux, il le connaissait. Donc, c'était un dénommé John Charette. Et il lui serre la main, tout ça, les présentations. Et Charette lui présente rapidement l'homme qui était avec lui, qui l'accompagnait. C'était Louis Dubé. Et Louis Dubé, apparemment, avait quelque chose à lui dire d'important. Mais Bédard, rapidement, l'a recoupé la parole parce qu'il était trop occupé. Donc, il leur a dit de revenir plus tard dans la journée. Et donc, c'est effectivement ce qui est arrivé. Le fameux Louis Dubé est revenu quelques heures plus tard au cabinet de Maître Bédard, qui était à ce moment-là plus libre de ses mouvements. Donc, il a pu le recevoir seul à seul dans son bureau. Et ce Louis Dubé-là, nouveau personnage dans notre affaire, évidemment, a décidé tout de suite de jouer la carte de la franchise et il s'est montré honnête tout de suite en disant qu'il venait tout juste de sortir de prison. En fait, de la fameuse prison qu'on appelait apparemment, qui semblait être assez célèbre pour, en tout cas à cette époque-là, qui l'est peut-être moins aujourd'hui, assez célèbre pour son caractère un peu lugubre, et on l'appelait la ferme industrielle, ou Industrial Farm en anglais, et elle était située à Burwash, en Ontario, c'est au centre de l'Ontario, c'était au milieu de nulle part, je pense qu'il fallait... Il y a des vestiges de ça, vous irez fouiller sur Internet, les vieilles photos de ces installations-là abandonnées. Alors, c'est probablement pour ça qu'on l'avait mis au milieu de nulle part, pour la rendre très difficile d'accès et, à l'inverse aussi, très difficile pour les évasions. Donc, c'est là que notre Louis Dubé a fait la rencontre d'un autre co-détenu, si on veut, qui s'appelait Raoul Binette. Et oui, Raoul Binette, c'est un nom qui ne vous dit absolument rien, mais qui va se répéter plusieurs fois dans l'avenir, donc dans le reste de notre série. Il va prendre quand même beaucoup de place. Et je tiens à préciser aussi un petit détail, parce que certaines personnes à travers le temps me reviennent avec ça, et je sais que ça, qu'il y en a plusieurs que ça titille, et on va régler des comptes ici tout de suite. À propos de l'orthographe d'un nom de famille, OK? Donc, Raoul Binette, dans mon livre, je l'écris Binette, B-I-N-E-T-T-E. Bon, Binette, c'est clair. Dans le dossier judiciaire, ainsi que Réal Bertrand, l'ont écrit Binette, N-E-T, comme Binet, si on veut. Mais puisque les documents officiels, y compris sa propre signature sur l'aveu du 6 février, on y reviendra, 6 février 1921, évidemment, il orthographiait Binette TTE. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette dernière formule pour dans mon livre, évidemment. Donc, pour ce qui est des noms de famille, je vous donne un exemple. Justement, c'est cet exemple-là avec Binette. Et mon propre nom de famille est excellente parce que si, mettons, on l'écrivait N-E-T, on se disait, on pouvait le prononcer Binet ou Binette. Parce qu'on ne sait pas à reculons, on n'est plus là, on n'a pas les... On ne peut pas entendre le principal personnage prononcer son propre nom, il est mort. Bon, c'est clair et net. Mais avec cette transformation-là ou cette confusion-là, si on a écrit TTE sur certains documents, ben c'est parce que probablement, et fort probablement, qu'on le prononçait Binette. Donc, comme dans mon cas à moi, mon ancêtre, il s'appelait Veillet. Ça finissait par ET. Mais il y a beaucoup de noms propres des Québécois qui ont fini par se féminiser, c'est une façon de le dire, et qui ont fini par TTE. Même, il y a des Doucets qui sont devenus des Doucettes TTE. C'est pas courant, mais bon. Donc, moi, dans mon cas, Veillet, Veillette. Alors, oui, on prononçait le TTE. Alors, c'est probablement un gros indice de l'orthophonie ou de ce qui se disait à l'époque. Donc, pour ceux qui viennent me dire qu'il y a une erreur, m'en fous carrément. C'est assez clair. Même dans le cas de d'autres noms, souvent ce que je fais, c'est que je choisis celui qui a été utilisé dans le dossier judiciaire, parce que souvent, c'est peut-être pas la bonne formule. Les familles ont une façon de l'écrire, et c'est souvent ça hein, le problème. Des familles isolées, des fois, avaient une façon de l'écrire, et puis là, ça ressort, ça les frustre un peu, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y avait d'autres façons d'écrire leur propre nom. Alors voilà, c'est un peu étrange, mais c'est arrivé aussi dans le cas de Slater, où il y a un C qu'on ne prononce pas ou très peu. Bon, il y en a qui l'écrivent pas de C avec un C, mais à quelque part, on s'en fout parce que les noms propres évoluent, c'est comme la langue française, hein. Qu'on le veuille ou non, là, il y en a des jeunes aujourd'hui, hein, qui sont même pas capables de dire chevaux, donc ils ont accepté cheval au pluriel. Mais ça, c'est une question de paresse. C'est pas la même affaire, mettons. Mais pour les noms propres, évidemment, ça évolue. Et même les prénoms, je pense qu'ils évoluent encore plus rapidement parce qu'on les transforme comme on veut. Quand j'étais tout jeune, et probablement même encore plus à l'époque de mes parents, il n'y avait pas beaucoup de façons d'écrire le prénom Lynn, par exemple. Aujourd'hui, il y en a peut-être 18 façons, avec un H, un Y, puis pourtant, ça se prononce toujours Lynn. Et là, je donne juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de prénoms qui ont changé, même le mien, Eric. Bon, moi, je l'écris pas d'accent. Et il y en a qui l'écrivent avec un K, pas de K, avec un H même, c'est effarant. Donc voilà, faut quand même pas tomber dans le pointillisme là-dessus, là, devenir trop pointilleux. Et pour corriger quelqu'un qui m'avait déjà corrigé justement, le pointillisme, oui, c'est en or, dans la peinture, c'est un style de peinture qui a déjà existé. Mais aujourd'hui, c'est aussi accepté dans le milieu psychologique, de la psychiatrie, si on veut. Pointillisme, c'est quelqu'un qui, vous l'aurez deviné, est un petit peu trop pointilleux. Alors, on en voit de toutes les sortes. Hein. J'ai fréquenté pas mal de places au cours de ma petite, je dis petite carrière, parce qu'il y en a qui en ont eu des beaucoup plus grosses que moi. Mais on croise toutes sortes de personnes qui cherchent à nous impressionner, puis à nous rabaisser, puis bon, dans la prononciation de ci, de ça. Alors, je m'en fous carrément. Voilà la petite explication qui déborde un petit peu de mon sujet. Mais on va revenir à Binette. Ce qui est arrivé, c'est que, là, c'est Louis Dubé qui raconte ça dans le bureau de Maître Bédard à Sudbury, en Ontario. Et Binette, qui aurait dit à un moment donné, après un certain temps, il aurait commencé tranquillement à lui parler de l'affaire Blanche Garneau. Et je le dis en passant, j'ai oublié de le dire, Raoul Binette se faisait aussi appeler Legault. Il utilisait le nom de Legault. On va voir pourquoi tout à l'heure, et c'est même moi qui l'ai découvert dans mes recherches. Il faut bien que je serve à quelque chose, hein. Alors, voilà, j'ai pas réussi à résoudre un vrai crime jusqu'à maintenant, mais bon, on trouve quand même des petits détails ici et là. Donc, Binette a commencé à bavasser, comme on dit, a commencé à se l'ouvrir, à parler un petit peu trop. Donc, il a commencé à dire qu'il savait des affaires, lui, sur l'affaire Blanche Garneau, puis lui, il racontait. Et un jour, il est même arrivé avec un exemplaire de la presse pour parler de l'affaire Blanche Garneau. Donc, vous souvenez-vous ce que j'ai déjà dit à propos des journaux? Sûrement, hein? Si vous me suivez dans ma série, c'est que les journaux ont retransmis beaucoup de détails. Donc, notre ami Binette avait accès aux journaux, même à Burwash, dans le fin fond de l'Ontario, et des journaux même francophones, hein? La presse. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais on va y revenir plus tard. Donc, il a commencé tranquillement, et je pense qu'il se renseignait sur l'affaire et tout ça, et il a commencé à laisser entendre qu'il savait de plus en plus de choses et qu'il avait l'intention même d'avouer son implication dans le meurtre, rien de moins. Mais là, je dis implication. C'est ce qu'il laissait entendre apparemment, en tout cas dans les termes qui sont dans le dossier judiciaire. C'est qu'il laissait entendre son implication, donc impliqué ne veut pas dire que c'était seulement lui. Vous me suivez? Donc on parle encore de deux personnages. Et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que un soir, toujours sur la ferme industrielle de Burwash, Binette est allé voir Dubé et il lui a carrément avoué tout d'un coup son implication dans le meurtre de Blanche Garneau. Là, il en disait de plus en plus, c'est comme s'il le testait. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit. Évidemment, on a juste les propos de Louis Dubé là-dessus. Et là, ce soir-là, il dit « OK, j'ai participé au meurtre de Blanche Garneau, mais, parce qu'il y a un « mais » dans tout ça, il a avoué que l'assassin, le principal assassin, était une autre personne. Mais, contrairement à Henri Duval, il a été beaucoup plus précis. Il a donné un nom. Vous vous souvenez qu'Henri Duval disait, bon, qu'il avait accompagné deux hommes qui étaient là, mais qui n'étaient pas là. Il a bu des verres avec eux avant et après le meurtre, mais il n'a jamais su leur nom. Tu sais, c'était un peu quand même vague. Mais Binette, lui, a dit que l'assassin s'appelait Frédéric William Palmer. Oh! Donc, encore une fois, ça nous ramène au fait qu'il y a deux suspects, si on en croit la version de Binette, évidemment. Et vous allez voir qu'on va l'étudier à fond, la version de Binette, on s'en va vers ça, tranquillement, pas vite. Et je vous rappelle que la version, pas la version, mais l'hypothèse que ce soit deux meurtriers, ça semblait comme naturel à travers les journaux. C'est les journaux qui ont amené ça de façon naturelle. Et depuis ce temps-là, depuis quelques mois, on ne parlait que de cette possibilité-là. On avait même oublié que ça avait pu être juste un assassin tout seul. Alors voilà. Et ce qui ajoute encore au mystère de cette affaire-là, là on a un... Hein, si on veut juste faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir... On a un Québécois qui est emprisonné au fin fond de l'Ontario pour on ne sait quel crime, et premièrement. Travaux forcés sur la ferme industrielle. Et il se confie tranquillement à un autre Québécois pour... Est-ce que c'est pour se rendre intéressant ou parce que c'est vrai, il a besoin de se confier, on ne sait pas. Mais il a quand même accès aux journaux, ça c'est clair. Et le soir où il avoue tout, il dit « Bon, ben ok, oui, j'ai participé à ce meurtre-là. » Eh bien, croyez-le ou non, le lendemain, Binette était devenu introuvable. Il s'était évadé. Eh oui, notre Binette a disparu le lendemain de son aveu. En tout cas, l'aveu qu'il a fait à Louis Dubé. Et là, on se retrouve dans le bureau de Maître Bédard. C'est bien beau, cette histoire-là, mais Maître Bédard, lui, il est moins impressionné parce que le nom de Blanche Garneau, ça lui dit rien pantoute. Eh non, il n'a pas entendu parler de l'histoire parce que, principalement, Maître Bédard était un abonné du Devoir et on sait que, bon, il se fiait à ce journal-là pour se tenir au courant des nouvelles québécoises parce que même s'il était en Ontario, il voulait se tenir au courant de ce qui se passait au Québec. Et on sait que le Devoir, ben, en tout cas, à cette époque-là surtout, c'était pas vraiment sa spécialité de parler des crimes, même les plus célèbres qui étaient commis au Québec. Alors, c'était plus un journal intellectuel ou politique. Alors, voilà, ça pouvait expliquer ce manque d'informations-là du côté du jeune avocat. Le réflexe que Maître Bédard a eu, en bon avocat, évidemment, c'est d'écrire une lettre au procureur général de Québec, rien de moins, et de lui résumer les propos que Dubé avait tenus devant lui, parce qu'en plus, il semble, en tout cas, il ne l'a pas dit, là. Moi, je ne me souviens pas de l'avoir lu, mais il semble que Louis Dubé semblait sérieux, parce que sinon, il l'aurait rejeté s'il ne l'avait pas cru. Donc, il avait besoin de vérifier ça. Et attachez votre sucre, parce que la réaction n'allait pas tarder. Alors, d'un certain côté... l'histoire de Binette, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de détails. Il y a juste... Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est vanté d'avoir participé au meurtre de Blanche Garneau avec un dénommé Palmer. Donc, on a quand même deux noms. Ça arrivait quand même assez à point parce que la piste d'Henri Duval était en train de s'effondrer, là. Donc, tout ça finit par atteindre les oreilles de Dieudonné Lorrain, celui qui a fait son enquête pratiquement tout seul. Avec Henri Duval à l'insu des policiers de Québec. Donc, c'est comme si la SQ travaillait tout seul sur un dossier et la police de Québec sur un autre. Mais là, dans ce cas-là, 1920-21, la police de Québec semblait plutôt tourner en rond. Il n'y avait pas de piste sérieuse, à part les rumeurs qui continuaient à se multiplier, dont deux fils de députés. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, sans tarder, Lorrain et son détective Georges-Hector Rioux, ils ont sauté dans le premier train. Ils n'ont pas hésité une seule minute et ils se sont rendus au bureau de Maître Bédard en Ontario le jour même de Noël, oui, le 25 décembre. Et étant donné que le jeune avocat se trouvait en famille ce jour-là, hein, je pense que c'est tout à fait normal. Il avait le droit de fêter lui-ci, hein? les deux enquêteurs de Montréal ont pris une chambre à l'hôtel pour attendre par politesse que sa fête familiale soit terminée. Et à cause de ça, c'est le lendemain, le 26 décembre, vers 14h, que Lorrain et le détective Rioux se sont présentés devant Bédard, qui leur a tout simplement raconté la même histoire, c'est-à-dire celle que je viens de vous partager. Ensuite, c'est normal aussi qu'on ait voulu vérifier la source, ou du moins une partie de la source de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on a fait venir Louis Dubé pour lui faire répéter son histoire. Et cette fois, le récit même a paru encore plus crédible. C'est-à-dire que, en tout cas, au moins au premier contact, là, si on veut. Le plus étrange, cependant, c'est que certains éléments du crime semblaient coller en partie à celles fournies par Duval. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mais Duval n'avait pas été capable de nommer les deux suspects dont il parlait. Mais par contre, il avait parlé d'un petit Québécois et d'un grand anglophone. Alors là, je ne sais pas si votre cloche vient de sonner, mais on se retrouve avec un Raoul Binette et un Frédéric Palmer. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la description physique. Est-ce que Binette était petit et Palmer plus grand? Ça, on ne le sait pas encore. Et on verra. Donc, devant tout ce sérieux-là, la présence du directeur de la police provinciale sur place avec son détective principal, c'est-à-dire Georges-Hector Rioux, eh bien, l'avocat Bédard n'a eu d'autre choix que de commencer à entamer la preuve, si on veut. Donc, il a pris en déclaration, il a sorti sa machine à écrire et il a pris la déclaration de Louis Dubé de façon officielle. Alors, peu de temps après, Lorrain et Rioux, ben, ils sont retournés vers Montréal, donc ils sont retournés chez eux avec, j'imagine, une certaine satisfaction, hein? Avec le sourire aux lèvres, on peut les imaginer à bord du train, voilà, ils ont enfin une autre piste. Mais il fallait pas crier victoire trop vite parce que Binette puis Palmer, ben, on les avait pas trouvés encore, là. On avait les noms. Est-ce qu'ils existaient, premièrement? Dans le cas de Raoul Binette, c'est fort probable. Là, on avait quand même le témoignage d'un ancien détenu, tout ça. Mais il fallait quand même les retrouver. Il fallait les arrêter, leur mettre la main au collet et essayer d'obtenir des aveux ou d'autres preuves, au moins. Il restait à savoir, évidemment, si Binette et Palmer étaient les vrais assassins. Est-ce que c'était encore une fausse piste? Est-ce qu'on s'amusait au détriment des détectives? Quel genre de criminel était Binette? Là, on sait au moins qu'il avait déjà fait de la prison, donc il avait un casier judiciaire. Et dans le cas de Palmer, ben là, pour tout de suite, c'est vraiment le néant, le mystère complet. Mais au moins, cette fois, on a une piste qui semblait démarrer sensiblement de la même façon que Henri Duval, mais de manière moins chaotique, je dirais. Vous vous rappelez là, qu'avec Henri Duval, ben, ça partait un peu dans tous les sens. Là. Il disait à peu près n'importe quoi, malgré le fait qu'il a quand même révélé des détails qui pouvaient être crédibles à travers tout ça. T'sais, à force de gueuler, comme on dit, on finit par dire des vérités. c'est ça. Mais dans le cas de Binette, ça apparaissait assez crédible parce que c'était pas trop gros encore. Là, on sait pas, on n'a même pas sa version. Faudra l'interroger à ce moment-là pour avoir étudié vraiment sa version, savoir si c'est crédible ou non, parce que effectivement, c'est dans les détails qu'on peut arriver à voir un peu plus clair dans ça. Ou pas du tout. Des fois, ça fait juste continuer à nous brouiller les méninges. Un peu comme dans le cas d'Henri Duval, mais Henri Duval, si vous vous souvenez, il y a quand même certains détails qui laissaient croire que on avait des doutes, hein? Les fameuses morsures au sein, par exemple, c'est le seul qui en a parlé, alors que l'autopsie n'a jamais révélé ça. Et voilà, fait que faut quand même faire attention. Alors, si ça conclut l'ouverture de la nouvelle piste. Le détour ontarien, je dis le détour ontarien parce que c'est la seule fois dans l'enquête qu'on a fait un petit détour du côté de l'Ontario. Et après, on va retourner parce que nos amis de Québec ne savent toujours rien de cette histoire-là. Ils ont même jamais su à propos d'Henri Duval. Ils vont le savoir seulement plus tard lors de la commission royale d'enquête. C'est assez étonnant. En tout cas, c'est ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, les policiers de Québec vont bientôt, par exemple, cette fois-ci, ça va être différent, et on va se diriger vers des procédures judiciaires qui vont être un petit peu plus complètes, disons. Alors, voilà, dans le prochain épisode, ben, ce sera la suite de ça. On va essayer de mettre la main au collet de Binette et de Palmer. On va voir ce que ça va donner.